Futurus, du latin qui signifie avenir, une synonymie vraiment parfaite entre le futur et l'avenir. Mais un problème d'emblée radical, tragique, émouvant et j'espère dynamique. Nous sommes une semaine après le vendredi 13 novembre 2015 et parler du futur avec un passé récent aussi commotionnant, aussi traumatique et je crois cruel, mais source d'une excellente introduction sur un premier point qui sera que probablement que l'avenir, le futur sont d'abord et surtout enracinés dans notre histoire, qu'elle soit récente comme cet événement ou qu'elle soit beaucoup plus ancienne. Et je pense bien sûr à l'histoire, la mémoire des vivants, mais bien au-delà, celle des aïeux, des ancêtres qui ont quitté la scène de la vie, du mouvement, mais qui sont présents avec nous. Cet avenir, ce futur, nous confronte à une des sources de modestie, sinon d'humiliation, les plus humaines, les plus anthropologiques qui soient. C'est-à-dire que bon sang de bonsoir, c'est horripilant, c'est crispant, mais nous ne connaissons pas le futur. Nous dépensons une énergie considérable dans tous les secteurs pour pouvoir énoncer un discours raisonnable, scientifique, probabiliste, économique, sur ce futur. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aussi d'emblée, c'est que probablement que relever le défi d'une vie humaine, c'est, facile à dire, dur à faire, petit à petit apprivoiser cette angoisse fondamentale qui est « je ne sais pas de quoi est fait l'avenir ». Donc il y a là une marque véritablement de la limite, de la finitude, de la castration humaine qui est, je crois, tout à fait essentielle. Il faut rappeler à ce sujet que Cronos, dans la mythologie grecque, Cronos mangeait ses enfants. C'est-à-dire que pour se prémunir de l'avenir de la rivalité œdipienne, eh bien, la meilleure défense, c'est l'attaque, et il dévorait ses enfants. Et sa femme, Rhea, était vraiment outrée, scandalisée par ce meurtre récurrent du fruit de leur hymen. Et pour le troisième fils, Zeus, s'il en est, eh bien, elle a décidé d'organiser une évasion et de faire en sorte d'accoucher en dehors de l'empire destructeur de Cronos. Et donc elle a remis dès la naissance son fils Zeus à la terre-mère qui a veillé à son éducation et à son élevage, en dehors des griffes de Cronos. Ce que j'essaye de souligner là, en convoquant les dieux, c'est que je crois que la psychanalyse nous a bien montré qu'avec notre réalité psychique, empreinte de notre sexualité infantile, eh bien, est synonyme toute notre vie durant de toute puissance divine, c'est-à-dire, et l'inconscient zetlos, intemporel, le signifie bien, il y a chez tout un chacun une nostalgie, une commémoration de cet enracinement dans l'intemporel au quotidien de notre vie psychique. Et donc pour moi, réfléchir sur le futur, c'est réfléchir sur cet espace biopsychique qui se situerait entre cette polarité de l'enracinement divin et puis la raison qui s'apprivoise et qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, même si on peut imaginer que la sublimation peut être source de plaisir à cette occasion, où on est dans le platonicien, le Phédon, ou dans le dernier dialogue socratique, il est question d'un vivre, c'est apprendre à mourir. Et Montaigne reprendra ça quelques siècles plus tard dans ses essais, où il dira que, eh bien, philosopher, c'est vraiment apprendre à mourir. Et je crois qu'il faut entendre là tout le travail que nous faisons, nous les humains, pour trouver un compromis, un consensus entre cet horizon divin qui ne veut pas entendre parler du temps et cet enracinement dans la finitude humaine qui est source de beaucoup de fragilité, mais aussi qui est probablement le lieu d'enracinement et de source d'énergie de notre créativité qui est la réponse face à ce qu'il en est de cette incertitude. Être sur cette base que nous ne pouvons pas, en dépit des efforts considérables que nous faisons, connaître véritablement comme les dieux, comme l'augure, l'avenir, eh bien, cela s'accompagne d'angoisse. Et là, je crois qu'on ne peut pas parler d'avenir sans convoquer dans un esprit clinique psychanalytique la deuxième théorie de l'angoisse freudienne, où Freud oppose dans Inhibition, symptômes et angoisse et dans d'autres textes comme la 32e conférence où c'est très clair, il oppose l'angoisse signal et l'angoisse automatique, traumatique. Et là, je crois qu'on a une boussole qui est tout à fait utile et efficace pour nous aider à comprendre ce qu'il en est au quotidien de nos vies personnelles, mais aussi dans notre activité clinique, ce qu'il en est de la qualité de la réponse de l'humain face à cette incertitude. Il est certain que le bébé, à la naissance, dans cette DZ, cette Ilfossigkeit fondamentale, il est démuni, il ne survit que grâce aux soins apportés par ses gardes du corps. Il est certain que, par rapport à cette question du futur, il n'a aucune anticipation sur l'avenir. Et que probablement, et la psychologie du développement a mis particulièrement l'accent sur ce point, petit à petit, il va, grâce à des introjections, incorporations, identifications à l'égard de ses gardes du corps, il va apprivoiser ce qu'il en est de la projection dans un avenir qui permet d'organiser, d'orchestrer le présent, qui sans cette projection dans l'avenir, sans cet avenir présent de l'anticipation, n'est que chaos. Mais avoir en tête que l'infance doit petit à petit s'approprier cette insertion dans le temps, dans Chronos, et je pense important, et c'est vraisemblablement un des axes majeurs de ce qu'il a à faire pour s'humaniser et rentrer dans le commerce humain, intersubjectif dans toute sa complexité. L'angoisse traumatique est typiquement, justement, pour Freud, ce que va ressentir le bébé au départ, qui n'a pas cette capacité de se projeter dans l'avenir. Et je crois que c'est vraiment intéressant, et en particulier dans ces temps redoutablement tragiques, de bien se souvenir que ce qu'il en est justement typiquement de la signature du débordement traumatique, eh bien, c'est cette absence de projection dans l'avenir, cette absence du travail de l'humain qui ne se prend pas pour un dieu et qui va relever le défi d'envisager se projeter dans l'avenir tout en sachant qu'il ne pourra pas avoir la réponse. Donc on est là dans un paradoxe permanent que le bébé va devoir apprivoiser et que bien évidemment dans la chorégraphie relationnelle entre lui et son environnement humain, chacun aura une partition en complémentarité permanente avec les autres et on ne comprendra ce qui se passe chez le bébé que si on a des données relativement conséquentes sur ce qui se passe autour de lui. Pour travailler au quotidien et en particulier avec les collègues somaticiens à l'hôpital, même si parfois certains de ces somaticiens sont des psychistes extrêmement affûtés, mais je vais pour la facilité du propos les estampiller somaticiens, pour travailler avec eux au quotidien d'un staff ou d'une discussion dans les couloirs, je me suis entendu parler de plus en plus, non pas d'angoisse signal et d'angoisse automatique, parce que c'est un peu difficile à un staff de sous-entendre qu'on ne dialogue qu'avec les gens qui ont lu inhibition, symptômes et angoisse récemment. Je me suis entendu utiliser comme alternative à ce jargon psychanalytique de spécialiste l'opposition entre l'anticipation, qui est vraiment résolument du côté de l'angoisse signal, et puis la prédiction, qui elle serait probablement proférée par quelqu'un qui est terrorisé par des angoisses traumatiques et qui va tenter un coup de force vis-à-vis du futur, un coup de force dont nous avons, nous, à envisager la teneur psychopathologique, qui est « eh bien, je ne veux pas de ce deuil, de l'absence de connaissance de l'avenir, et je vais véritablement l'occuper de la manière la plus drastique et radicale. » Bon. Le clinicien aura reconnu bien des tableaux, hein, mais c'est intéressant de voir, avec un psychiatre très méconnu en France qui s'appelle Jean Suter, qui était un psychiatre dans la tradition phénoménologiste, Jean Suter a décliné toutes les pathologies de la nosographie des années d'après Deuxième Guerre mondiale selon justement la qualité de cette anticipation. Et on peut lire évidemment des pages emblématiques sur la névrose obsessionnelle où effectivement bien celui qui souffre d'une grave névrose obsessionnelle sera justement dans cette projection du temps où les trains devront arriver à 10h26 si c'est marqué comme ça sur le papier et l'angoisse sera absolument redoutable et déstabilisante si le train arrive 2 minutes avant ou 2 minutes après. Je schématise. Le déprimé qui va être convaincu que de toute façon, à chaque fois qu'il se présente à un carrefour, ça se passe mal, et le thérapeute va passer pour un jovial enthousiaste à envisager que ce qui est pour lui gravé dans le marbre, c'est comme ça depuis des lustres, et à chaque fois que je me représente dans une nouvelle situation, j'ai la confirmation effectivement de ma négativité et de ma destructivité, eh bien, c'est aussi pour le clinicien une expérience tout à fait passionnante par rapport à ce qu'il en est d'un horizon bouché, où on n'est pas face à la diversité du champ des possibles, mais où la personne mélancolique va vouloir convaincre son interlocuteur que véritablement, c'est certain, l'horizon est noir et il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a qu'un pas pour aller du côté d'un certain nombre d'idéologies où probablement, et encore une fois dans ce contexte lourd d'aujourd'hui, on voit bien que certaines propositions religieuses, politiques, scientifiques peuvent elles aussi être tentées par ce coup de force et ne pas vouloir de ce deuil ne pas connaître l'avenir et de refuser cette castration et de s'inscrire dans une capacité de prédiction. Et là, je crois par exemple que on a au jour d'aujourd'hui un certain nombre d'idéologies qui sont ravageuses parce que justement elles s'inscrivent dans cette absence de négociation avec le futur et avec l'avenir. Pour résumer, on pourrait peut-être dire quelque chose comme l'anticipation issue d'une angoisse signal opérante serait dans une négociation avec ses hauts et ses bas. Ça n'empêche pas effectivement de mettre un genou à terre de temps en temps, comme probablement beaucoup d'entre nous l'ont fait vendredi soir en fin de soirée. Et une autre option qui est celle de la prédiction, où en lieu et place de cette négociation de l'avenir, on est dans une colonisation de l'avenir. C'est-à-dire on veut être véritablement maître et possesseur de cet avenir. Et là où il y a dans l'anticipation de la négociation, on est au contraire dans une volonté d'emprise, dans une volonté de gouvernance despotique qui ne supporte effectivement rien d'autre que la toute-puissance. Alors, il y a un exemple récent qui nous a beaucoup touché dans notre communauté des cliniciens ces dernières années. C'était le fameux rapport de 2005 de l'INSERM qui s'appelait « Troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent ». Bon. Et où il y avait manifestement dans ce texte une bavure scientiste, et j'intitule « bavure scientiste » le fait que justement des scientifiques tombent dans la démesure de la prédiction et s'éloignent de l'ascèse de l'anticipation, où encore et toujours le postulat c'est qu'on a fait le deuil de connaître l'avenir. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre là de prédictions qui ont scandalisé un certain nombre d'entre nous parce que nous n'étions pas du tout d'accord pour l'équation qui consistait à affirmer que tel et tel comportement violent chez un enfant à la maternelle était de facto, dans un rapport de cause à effet simpliste et bêta, le prodrome, l'élément nécessairement annonciateur de violence à l'adolescence et chez l'adulte. Je crois en effet que un scientifique bien tempéré et en ce qui nous concerne dans notre communauté un clinicien raisonnable se doit d'intégrer ce que Edgar Morin a nommé le principe d'incertitude, c'est-à-dire véritablement l'intégration dans son art et dans sa pratique quotidienne de ce qu'il en est de cette impossibilité de prévoir l'avenir et donc du coup d'en envisager les conséquences dans son éthique et dans son art de la clinique. Alors, c'est vrai qu'on pouvait convoquer aujourd'hui, dans cette perspective, ce qu'il en est des données récentes neuroscientifiques. Il est certain que ce qui a été mis en lumière ces dernières années sur le scientisme d'une génétique ferroviaire qui consistait à croire à tort que l'humain, à partir de son codage génétique, était préprogrammé et ne faisait que délivrer inexorablement une partition déjà écrite. Bon, cette génétique-là, où certains professeurs clamaient dans les universités, pas seulement américaines, que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs à la naissance, eh bien cette génétique-là est vraiment derrière nous par bonheur. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui que les généticiens, qui étaient dans un premier temps ceux qui colonisaient l'avenir et qui tombaient dans la tentation divine prédictive, eh bien sont aujourd'hui ceux qui sont les meilleurs avocats du relativisme, de l'indétermination. Et je reprendrai bien volontiers à ce sujet la belle expression co-construite par Ansermé, le psychanalyste, et Magistretti, le généticien, qui disent que l'humain est biologiquement déterminé pour être indéterminé. Hein. Et cet aphorisme pour celui qui réfléchit sur l'avenir, sur le futur, eh bien, résonne comme véritablement une leçon d'immense modestie. Et donc, face à un enfant, face à un adolescent, face à un adulte, si on est pétri de cette inspiration scientifique reposant sur la plasticité neuronale toute la vie durant, sur une épigénèse embryo-fœtale, puis toute la vie durant, mettant en présence une dialectique complexe entre certes des données génétiques, mais aussi des données environnementales et une interaction avec des modifications mutuelles en permanence, alors effectivement, on va trouver là un socle conséquent pour pouvoir prendre distance avec ce qu'il en est de la tentation de la prédiction. Alors, et encore une fois, c'est le refrain de cette rencontre de ce jour où nous sommes tous si pénétrés par l'effroi de ce qui s'est passé vendredi 13 novembre dernier. J'aimerais finir en posant la question de savoir si on doit ou non être fataliste, ou au contraire tenter de trouver les moyens de s'inscrire dans un avenir présent qui soit à la fois résolument dans la prise en compte de ce deuil du principe d'incertitude, de la méconnaissance de l'avenir, mais aussi, et peut-être à partir de cela, dans une volonté farouche et créative de s'inscrire dans une opiniâtre volonté de ne pas s'en laisser conter par les idéologues et par ceux qui veulent écrire l'avenir avant qu'il ait eu lieu et qui veulent nous contraindre à jouer une partition dont ils détiendraient la succession, la chronologie. Alors, je crois que là, il est important d'envisager probablement la nécessité d'une œuvre collective, d'une anticipation collective, et on le voit bien dans les processus de cicatrisation immédiat et plus à moyen terme et à long terme qui se mettent en œuvre à chaque fois qu'il y a comme ça des blessures collectives de cette profondeur-là. Je crois que ce qu'il faut espérer et envisager à ce sujet pour le futur, eh bien, c'est une action fédérative, une action collective, qui soit à la fois sensible à ce qu'il en est de nos propres territoires individuels, conjugaux, familiaux, mais aussi nos territoires collectifs, républicains. Et en la matière, il me semble que l'avenir, il ne peut se conjuguer véritablement aujourd'hui qu'à une échelle mondiale. Et donc, il me semble là qu'il y a une nécessité d'envisager une œuvre collective à grande échelle. Et sans doute que le meilleur relais de ces élans collectifs, eh bien, ce sont des œuvres tout à fait locales, hein. C'est-à-dire que je dois dire que à ce jour, il me semble que pour organiser le futur, eh bien, c'est d'abord et surtout dans les endroits où nous vivons et où nous travaillons que nous pouvons sans doute faire notre partition avec modestie et avec créativité.